Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui va essentiellement s'intéresser aujourd'hui à des mots nouveaux, des mots étranges, des mots bizarres qu'on connaît peu, peut-être qu'on ne connaît pas du tout. Et puis dans une deuxième partie d'émission, la rubrique « Ma parole, ça t'apprendra » qui nous permettra de connaître ou de mieux connaître le service langue française de RFI. Mais tout de suite, ces mots bizarres, escargotés, gentrifiés, d'autres encore que j'ai vus, que j'ai lus dans le dico des mots sans dico de Bertrand Ferrier, édité chez Max Milo. Bertrand Ferrier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venu parce que vous avez fait paraître aux éditions Max Milo ce petit dico des mots sans dico. Ça, c'est le sous-titre. D'habitude, on commence par le titre. Là, je suis désolé, j'ai lu en partant du bas et en remontant. Et en remontant, on trouve le point de vue du panda. Bien entendu, la première question sera pour vous demander, un, ce que c'est qu'un panda. Deux, ce que c'est qu'un point de vue. Trois, ce que c'est que le point de vue du panda.
Alors, le point de vue du panda, c'est une expression syntagmatique. On va commencer par un gros mot comme ça, c'est fait dès le début, c'est-à-dire que c'est une expression à prendre pleinement, entièrement.
C'est ça que ça veut dire, syntagmatique ?
Ouais.
Qu'il faut l'apprendre entièrement, c'est-à-dire qu'il faut pas la découper pour comprendre son sens.
On peut, c'est un peu l'avantage déjà d'un dictionnaire, c'est qu'on peut le prendre dans n'importe quel sens, mais l'idée du point de vue du panda, c'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire, c'est une idée qu'a eu une journaliste de Grazia, symbolisée par...
Qu'est-ce que c'est Grazia ?
Alors, Grazia, ça au moins je peux le définir facilement, c'est un hebdomadaire féminin qui a créé un personnage qui s'appelle Graziella, et ce personnage a eu une idée pour se faire inviter à Cannes et se démarquer de ses collègues. Au festival, parce que c'est sympa, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a de la plage. Elle a eu l'idée de créer, d'avoir une perspective particulière. Elle voudrait interroger les acteurs, mais aussi les politiques, et notamment Fleur Pellerin, du point de vue du panda, justement pour singulariser. Et on s'est dit, c'est un bon symbole de gros dico. Gros dico, on va faire un dictionnaire du français, mais avec que des mots qui sont pas dans le dictionnaire.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce point de vue du panda? J'ai pas encore tout compris.
Le point de vue du panda, c'est poser des questions à quelque chose qu'on croit connaître, ou à quelqu'un qu'on croit connaître, et en fait, adopter un point de vue complètement différent. Là, on va définir la langue française en se disant, mais au fond, les mots qu'on emploie sont pas dans le dico. Et on le prouve.
C'est pas forcément le point de vue du naïf,
de
celui qui, justement, ne connaît pas un sujet et pose des questions innocentes que d'autres n'oseraient pas poser.
Alors, ça n'est pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on vérifie que les mots sont vraiment pas dans le dico. Et la seconde raison, c'est qu'on pose des questions qui ne se posent pas. C'est-à-dire que la plupart des mots qui sont dans ce dico-là, on est censé les connaître. Donc on s'interroge même pas sur ce que ça veut dire. On fait semblant, ou alors on saurait pas les définir. Et ça n'a pas été facile de définir tous ces mots qui sont pas dans le dico, parce que justement on croit savoir ce que ça veut dire, et en réalité on sait pas.
Vous parlez beaucoup de dico depuis tout à l'heure. Un dico, qu'est-ce que c'est? C'est un dictionnaire. C'est le mot familier pour dire un dictionnaire.
Voilà, c'est oui.
Et vous parlez aussi du gros dico. Alors je suis désolé, mais je sais pas non plus ce que c'est que le gros dico.
Alors... pourquoi on parle plutôt de dico que de dictionnaire? C'est parce que c'est un dictionnaire, mais qui ne se prend pas au sérieux. Qui fait les choses sérieusement, mais qui ne se prend pas au sérieux. Et gros dico, l'idée, c'est de faire un dictionnaire du français tel qu'on le parle, du français sans les mots qui sont déjà dans d'autres dico, mais avec ce décalage, ce point de vue humoristique, qui est celui qu'on pourrait adopter si on était un panda et qu'on débarquait pour essayer de comprendre...
Un panda qui sait parler, quoi.
Qui sait parler français, mais qui découvre qu'en fait, le français, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors, question naïve de ma part, c'est pas du point de vue du panda, c'est du point de vue d'Amar. Quel mot trouve-t-on dans votre dico des mots sans dico, Bertrand Ferrier?
Alors, on trouve plusieurs types de mots. On trouve des mots complètement nouveaux, c'est-à-dire qui n'existaient pas, ou alors qui ne sont pas authentifiés par le dictionnaire. On trouve des mots qui existent, mais qui ont changé de genre. Par exemple, on va trouver, je vais prendre un exemple qui va choquer, mais tant pis, on va trouver PD. Le PD est connu, mais l'adjectif PD n'est pas recensé. Or, il retourne le qualificatif qui était insultant, et il devient un mot pour montrer qu'on n'a pas de problème avec ce concept. En l'occurrence, on a un exemple de Libération qui parle d'un chef-d'œuvre PD. Voilà. Donc, on a aussi des mots qui sont des faux amis. Par exemple, tout récemment, on a rentré dans le gros dico drague, qui ne veut plus dire la drague, le flirt, mais le drag queen qu'on a synthétisé. Aujourd'hui, quand on écrit slave, par exemple, on pense plus à la personne des pays de l'Est, on pense au slave. à l'esclave. Donc on va intégrer ces mots. Et puis on va intégrer aussi parce que...
Vous parliez de drague, là, reprenez parce que j'ai pas tout compris non plus. Alors, vous dites que le mot a changé d'emploi ou d'usage.
De signification. Alors parfois il change un peu de graphie. Donc par exemple quand on va...
Alors déjà, le sens propre de drague, c'est le fait de chercher dans de l'eau quelque chose qu'on ne voit pas et qui s'y trouve. On drague un fleuve.
On peut draguer
un fleuve. On drague une rivière parce qu'on va chercher un sac qui s'y est perdu ou même un corps. Quand quelqu'un s'est peut-être noyé, on va aller le chercher. Donc on drague un fleuve pour essayer de ramasser ce qui est au fond de l'eau.
C'est l'acception aquatique. Il y a l'acception érotique qui est le fait de compter fleurettes à quelqu'un. Et il y a désormais une acception avec le même phonème, hein, le même son, qui est une apocope de drag queen ou de drag king, qui fait que maintenant...
Une apocope, c'est-à-dire une
raccourcissement, voilà, un raccourcissement du mot, qui fait qu'on peut parler d'une drague aujourd'hui, alors qu'on va l'écrire éventuellement DRAG, mais le mot signifiera drag queen, donc personne homme qui se déguise en femme. C'est très à la mode aujourd'hui, on le voit avec le dernier
dans
film sorti
milieux,
avec...
Pas partout, hein.
C'est quelque chose qui se popularise en tout cas, on le voit avec évidemment le succès de Conchita Wurst, donc c'est populaire.
Qu'est-ce que c'est, Conchita Wurst?
Alors c'est pas un gros mot, Conchita Wurst, c'est la personne qui a gagné l'Eurovision, qui s'appelle Tom Neuwirth, et qui est cette femme barbue qui se montre. Le dernier film avec Romain Duris montre aussi à un homme qui décide de se déguiser au décès de sa femme en femme. Donc, nous, on intègre ça et on fait ça. Et puis, je voudrais quand même parler du quatrième type de mots que vous m'avez coupé tout à l'heure, un apocope de mon propos, qui est des mots qui existent et sur lesquels on va faire une plaisanterie parce que, aussi, le plaisir de la langue, c'est de rigoler avec. Par exemple, autographe, qui pour nous est une partie saisissante de l'autobiographie, la partie la plus intéressante, et on prend comme exemple, hier soir, j'ai fini l'autographe, la lecture de l'autographe de Justin Bieber, c'était extrêmement intéressant.
Voilà. Vous voulez dire que vous considérez maintenant que le mot autographe signifie autobiographie, qui peut être employé dans le même sens que autobiographie?
On peut considérer que parfois plus intéressante que l'autobiographie des stars, leur autographe est quelque chose qu'on peut valoriser.
Donc, oui, mais c'est vrai qu'on peut écrire une autobiographie sans qu'il y ait d'autographe. On peut même écrire une autobiographie sans savoir écrire, je suis sûr.
Bien sûr, on peut même faire un autographe sans savoir vraiment écrire, du moment qu'on sait manipuler un stylo.
Oui, on fait une croix à ce moment-là.
Par exemple.
Oui, mais un autographe, c'est son écrit, donc soi-même.
C'est exactement une graphie de soi-même. Oui. Et parfois, ce qu'on a le plus intéressant à dire, c'est juste son nom. Et on le voit bien, c'est rare qu'on aille au-delà quand on rencontre quelqu'un.
Oui. Donc, vous pensez que l'autographe peut se substituer à l'autobiographie?
Il peut être quelque chose d'intéressant. Et par exemple, dans le cas de Justin Bieber...
Alors, rappelez-nous qui est Justin Bieber.
Justin Bieber, c'est une vedette de la chanson pour teenagers, ou pour adolescents, selon qu'on parle français ou qu'on parle branché. Il a eu un grand moment de célébrité en dehors de ses chansons, parce que il a fait un autographe à sa sortie de la visite de la maison d'Anne Frank, et
fait un autographe. Alors là, dans quel sens employez-vous le mot?
Et ben justement, à la base, il devait juste mettre un petit autographe pour dire Justin Bieber, et ben c'est par là, peu comme s'il mettait sa patte sur une grotte.
Donc il devait mettre un mot dans le livre d'or.
Voilà. Et donc il a mis un mot sur son livre d'or, et ce mot a fait un scandale sur lequel il était obligé de s'excuser parce qu'il mettait qu'Anne Frank était quelqu'un de tellement formidable qu'elle aurait été sûrement une Bieber, c'est-à-dire quelqu'un qui adorerait Justin Bieber. Billy Burke, que nous avons intégré, bien sûr, dans Point de vue du panda, il n'y a pas de raison qu'on le
parce
loupe.
Que pour vous, pour lui, quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui est susceptible de l'aimer.
Quelqu'un qui l'aime, ouais.
Oui, c'est très particulier quand même comme point de vue.
Oui, mais bon, pour beaucoup de personnes, ça marche quand même. On vous a du mal à trouver les gens formidables s'ils vous détestent ou s'ils vous prennent pour de la merde, hein.
Eh bien, je vous propose quelques secondes de musique. On va écouter Le Dico de ma grand-mère d'Alain Leprest et on va revenir au point de vue du panda.
Dans la chambre de grand-mère, il y avait un gros dictionnaire où couraient des kangourous, des républiques et des poux. Et comme dans ces pages roses, on parlait pas de la chose, je m'en payais une tranche en reluquant ses feuilles blanches. J'y lisais des mots cochons, concubites et cornichons. À la page 620, y avait même écrit vaguin. C'était des mots sans photo, avec en prime l'écho. Pavillon et les fanfleurs, les mots disaient leur couleur.
Bertrand Ferrier, merci d'être avec nous donc dans la danse des mots pour nous parler du point de vue du panda et essayer d'analyser de plus près le type de mots donc qu'on trouve dans ce dictionnaire. Ce sont des mots qui échappent au dictionnaire traditionnel?
Des mots qui en tout cas ne sont pas intégrés. Nous, notre constat, c'est on a un mot, on voudrait savoir ce qu'il veut dire, on ouvre le dico, on le trouve pas. Et pourtant, il y a des dicos qui sont extrêmement développés. Par exemple, si on va sur larousse.fr, il y a 135 000 mots qui sont recensés. Plus les acceptions diverses. Or, normalement, si on a correctement fait notre boulot, et sauf exception due au fait que c'est récolté à la main, il n'y a pas un mot dans Gros Dico, version papier ou version e-pub, qui soit un mot publié ailleurs, dans le sens qu'on le définit.
Alors, je vois des mots, en effet, qui peuvent exister dans les dictionnaires traditionnels. Il y a « défatigué », je vois ça dans le point de vue du panda, dans votre gros dico. « Défatigué », pourquoi vous l'avez mis? Parce qu'il y a un sens, il y a une acception qui est différente de celle qu'on trouve dans un dictionnaire traditionnel.
Alors, soit il n'existe pas, contrairement à ce qu'on pense, ça peut arriver. Soit il existe sous une forme qui n'est pas celle qu'on atteste, c'est-à-dire ça peut être un adjectif alors que nous on intègre le verbe.
Oui, là c'est un verbe, vous donnez cette définition, donner l'illusion qu'on a la pépèche.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la pépèche?
Pépèche, c'est encore mieux que la pêche, c'est qu'on est tellement tonique qu'on est prêt à faire des blagounettes avec.
Ouais. Alors après, il y a se défroquer. Et se défroquer, vous mettez une première des définitions qui dit baisser son froc, obéir.
Voilà, et ça, cette acception n'est pas attestée par les autres dictionnaires, et donc on pourrait ne pas comprendre le terme qui est...
Et vous avez souvent entendu justement ce verbe se défroquer dans ce sens-là.
Il est employé dans ce sens-là. La question du souvent que vous posez est une vraie question. C'est-à-dire, comment on peut être sûr que ce sont des vrais mots? Nous, les mots de Gros Dico sont à 95% sourcés, c'est-à-dire qu'on donne une source pour prouver que c'est pas un dictionnaire de mots inventés, de mots de blagounettes, comme on en a fait quelques-unes jusqu'à présent. Ce sont des mots qui sont...
Les blagounettes, c'est quoi? C'est des petites blagues?
Ouais, c'est des petites blagues sans conséquences, des facéties, des billevesées à version humoristique.
Des fariboles,
comme des sornettes.
Exactement. Je vous suis.
Là, l'idée, c'est que ce sont des mots qui sont au moins une fois employés, et dont l'emploi nous paraît soit significatif, soit amusant, soit les deux.
Mmh.
Alors, se défroquer, par exemple, est intéressant, parce que à l'inverse, on a rentré aussi comme mot « rester », qui ne signifie pas quelqu'un qui demeurait dans une pièce, mais qui désigne les prêtres qui n'ont pas défroqué. Du coup, on met défroqué dans un sens différent, c'est-à-dire le fait de d'avaler son chapeau, et en revanche, un prêtre qui n'est pas
défroqué, donc au sens littéral, on peut dire, puisque se défroquer au premier sens, ça veut dire abandonner son habit ecclésiastique pour rentrer dans le monde, pour
Exactement.
Rentrer dans le siècle.
Et comme défroquer dans le sens religieux est déjà attesté par le dico, nous, ça nous intéresse pas. En revanche, le terme de rester n'est pas attesté dans le sens religieux dans le dico, et néanmoins, on a vu une manifestation récemment des prêtres défroqués et des religieux partis de leur couvent qui disaient qu'ils voulaient avoir les mêmes droits que les restés. Et donc,
les restés,
on a rentré le substantif
ce sont
resté.
Des prêtres qui n'ont pas abandonné la soutane
les religieux
ou le kerdiman ou l'habit
en tout cas
religieux.
Voilà.
Oui. C'est vrai que c'est un mot dont on n'a pas un usage extrêmement fréquent, mais pourquoi pas? Vous l'avez déjà entendu, vous, donc, cette manifestation-là?
On l'a lu, je pense que vous avez l'exemple dans le point de vue du panda, le livre. Mais surtout, ce que vous soulignez là était un point important. C'est que Gros Dico va réunir des langages de communautés différentes, qui peuvent d'ailleurs se mêler. Par exemple, on va prendre des langages, des jargons. Ce qu'on appelle des jargons, c'est-à-dire des mots techniques. Mais c'est des mots techniques qui peuvent être des mots techniques de fashion, donc de mode. Des mots qui font girly, qui font fille, qui sont spécialisés du textile. Qui donnent l'impression aux filles d'avoir un langage à elles. Avec une volonté souvent de divertissement qui n'est pas dupe de lui-même, qui est assez amusante. On a donc la communauté fashion, la communauté wesh, la communauté des rappeurs, de la Tessie.
Alors, vous allez beaucoup trop vite pour moi. La communauté des wesh, qu'est-ce que c'est?
Communauté des wesh, c'est ce qui pourra commerce, quoi, et qui emploie un vocabulaire spécifique qu'on peut notamment attester chez les rappeurs, mais pas
donc
que.
Donc vous faites allusion là à une façon de parler, même à un accent qu'on appelle parfois l'accent des banlieues, parce que c'est probablement dans les banlieues parisiennes qu'il est né il y a quelques dizaines d'années.
Oui, et qu'il mute. Il y avait récemment la rediffusion d'un reportage sur Renault. On le voyait en train de parler argot avec ses amis, et on comprend plus un mot de ce que disent ces gens-là. Alors, du coup, comme on comprend pas toujours ce que disent les wesh, donc nous, on traduit. Voilà, on part du principe. Communauté fashion, communauté wesh, on met aussi la communauté sportive, parce que les sportifs aiment bien aussi parler et avoir des mots assez techniques. Et puis, toute une série de communautés, communauté intello, la communauté...
Donnez-nous un exemple, par exemple, d'un mot du sport.
un mot du, je sais pas, envoyer des pizzas par exemple.
Ah oui, qu'est-ce que ça veut
dire? Envoyer des pizzas, c'est quand vous êtes talonneur au rugby, quand vous faites une remise en jeu. Voilà. Donc vous envoyez le ballon au-dessus de vos camarades et de vos adversaires, et le but c'est que vos camarades le récupèrent. Si vous envoyez le ballon n'importe comment, vous envoyez des pizzas. Voilà, par exemple.
Ah oui, c'est rater son coup quand même, envoyer des pizzas.
C'est envoyer le ballon, mais n'importe comment. Normalement, c'est pas prévu comme ça. Voilà. Chaque mot, pour nous, il y a un sous-texte derrière, et ça fait que, on espère que le livre est drôle, fait plaisir, permet aux gens de rebondir, et c'est pour ça aussi qu'il y a un site internet qui permet à chacun de venir déposer des mots qui y sont pas, ou des définitions de mots les mots y sont mais la définition n'y est pas, pour permettre d'ouvrir notamment à la francophonie. Je parle très mal le français de l'Afrique, ça m'intéresserait qu'on ait parmi vos auditeurs des auditeurs qui se mettent sur grodico.com et qui puissent à leur tour participer au développement de la connaissance du français tel qu'on le parle.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Ferrier de nous avoir parlé de votre livre, le Dico des mots sans dico, que vous venez de faire paraître aux éditions Max Milo.